إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons pu dans le passé expliquer la sourate al-Fatiha, le juz Amma, juz Tabarak, nous en sommes à juz Qad Sami'a, et nous avons pu expliquer par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi la sourate al-Baqarah en entier. Vous pouvez retrouver tous les cours précédents sur notre site internet durussunnah.com, durus-sunnah.com. Nous en sommes arrivés pour la récitation, la lecture et l'explication du Coran à la sourate Al-Mumtahana, la mise à l'épreuve. Alors je vais réciter la partie que nous allons tenter de traduire et d'expliquer aujourd'hui, Inch'Allah, avant d'entamer l'explication. A'udhu billahi s-sami'il alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
Donc nous avons lu par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala de sourate Al-Mumtahana, qui est la 60e sourate et qui comporte 13 versets et qui est une sourate médinoise. Nous avons lu jusqu'au verset numéro 6. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de sa parole: ô vous qui avez cru, ne prenez pas mes ennemis et les vôtres pour alliés, vous leur témoignez de l'affection alors qu'ils ont renié la vérité qui vous est parvenue, et qu'ils ont chassé le messager, ainsi que vous-même, pour avoir cru en Allah, votre Seigneur. Si réellement vous êtes sortis pour lutter sur mon sentier et pour rechercher mon agrément, n'agissez pas ainsi. Leur témoignerez-vous secrètement de l'affection, alors que je connais parfaitement ce que vous dissimulez et ce que vous divulguez. Quiconque d'entre vous agit de la sorte s'écarte du droit chemin. S'ils vous dominent, ils vous traiteront en ennemis et ne cesseront de vous malmener de leurs mains et de leur langue. Ils vous souhaiteraient d'être mécréants. Ni vos proches parents, ni vos enfants ne vous seront d'aucune utilité auprès d'Allah. Au jour de la résurrection, il vous séparera. Allah connaît parfaitement vos agissements. Donc là, on a traduit du premier au troisième verset. Et nous traduirons, inshallah, au fur et à mesure de l'explication. Bi'idhnillah et subhanahu wa ta'ala. Cette sourate, comme l'ont dit une grande partie des savants de l'islam, et surtout des savants de l'exégèse du Coran, elle fut révélée pour le récit de Hatib ibn Abi Balta'a, radiyallahu anhu. Hatib ibn Abi Balta'a est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a émigré de la Mecque et qui a combattu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la bataille de Badr. Et lors de la conquête de la Mecque, une histoire s'est passée avec Hatib. Hatib, radiyallahu anhu, qui n'était pas originaire de la tribu de Quraysh. C'est-à-dire, il habitait à la Mecque, mais ce n'était pas un Quraishite. Est entré en islam, a fait l'égir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a combattu à ses côtés à la bataille de Badr. Donc c'est un noble compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais lors de cette conquête, quand la conquête de la Mecque approchait, Hatib a envoyé un message aux Quraishites, dans lequel il les informa de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers eux. Il fit cela non pas par désir que les mécréants, les Quraishites, gagnent ou se préparent contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni par hypocrisie de sa part, ni par doute de sa part, mais tout simplement parce qu'il avait de la famille à la Mecque et qu'il craignait pour eux. Il cherchait la protection pour eux, et comme lui n'était pas un Quraishite, il n'avait personne à la Mecque pour protéger sa famille en cas de problème. Donc c'était pour se mettre à l'abri de leurs représailles, éventuelles, lui et sa famille restaient à la Mecque. Il envoya ce message avec une femme. Allah tabaraka wa ta'ala informa le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de ses agissements. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya des personnes récupérer ce message avant l'arrivée de la femme à la Mecque. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé à Hatib, alors que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu était présent. Omar a dit: laisse-moi frapper le cou de cet hypocrite.
Et voilà que Hatib de répondre: ô messager d'Allah,
je n'ai pas fait cela par mépris pour l'islam, par désir pour la mécréance, mais j'avais de la famille à la Mecque et j'espérais en cela gagner quelques faveurs des Quraishites pour qu'ils protègent ma famille et qu'ils ne leur fassent pas du mal. Voilà que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a regardé les gens de Badr. Il a dit: Allah a regardé tous les gens de Badr et il leur a dit: faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné ce que vous avez fait. Donc le fait que ce noble compagnon radiyallahu anhu ait participé à la bataille de Badr a été une cause de lui pardonner cette grande erreur qu'il a commise, d'avoir en quelque sorte dévoilé les secrets du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses ennemis. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accepta ses excuses et il cita ce hadith pour montrer la valeur des combattants de la bataille de Badr, que s'il leur arrive de faire des péchés, Allah Ta'ala leur pardonnerait ses erreurs et ses péchés du fait qu'ils ont participé à la bataille de Badr. Alors, ils sont parmi les meilleurs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ici, on voit la différence dans cette histoire entre la personne qui trahit les musulmans pour aider les mécréants par désir de la victoire des mécréants, par mépris et désintérêt et haine envers l'islam. Celui-là est un mécréant comme eux, est un hypocrite de l'hypocrisie majeure. Ou l'autre qui fait ça par faiblesse, pour un désir éphémère de ce bas monde, pour des peurs. Il aura commis certains péchés très dangereux, mais il n'aura pas, avec ce péché, il ne sera pas sorti de l'islam. Par contre, la différence entre lui et Hatib ibn Abi Balta'a, c'est que Hatib est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a combattu à la bataille de Badr, qui a des grands mérites. Donc, alhamdulillah, par ces grands mérites-là, Allah Ta'ala lui pardonne ses fautes. Alors que nous, combien de péchés avons-nous? Et nous n'avons pas ce bienfait, cet honneur d'avoir été des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni d'avoir combattu à la bataille de Badr. Donc la personne ne doit pas se risquer à aider les mécréants en quoi que ce soit contre les musulmans, car c'est un péché majeur. Et comme on l'a expliqué auparavant, cela peut même arriver jusqu'à la mécréance majeure. Ce verset, ou ces versets plutôt, contiennent une interdiction vigoureuse contre le fait de prendre pour alliés les mécréants parmi les associateurs, les associâtres et autres, de leur montrer de l'amitié, car ceci est contraire à la foi et à la ligne de conduite d'Ibrahim, Abraham, alayhi salat wa salam, l'ami le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'était aussi, à la raison qui implique d'être toujours vigilant vis-à-vis de son ennemi. Donc ceci est contraire à la foi, contraire à la ligne de conduite d'Ibrahim et contraire à la raison, qui implique d'être toujours vigilant vis-à-vis de son ennemi, qui ne laisse aucune occasion passer pour essayer de lui porter préjudice. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala a dit à cet effet, « Ô vous qui avez cru, ô vous les croyants, œuvrez selon les implications de votre foi, qui vous ordonne d'être les alliés de ceux qui s'imprègnent de la foi et de montrer de l'animosité à ceux qui s'opposent à la foi, car ils sont les ennemis d'Allah et des croyants. Aussi, ne prenez point les ennemis d'Allah en leur témoignant de l'amitié, c'est-à-dire vous vous précipitez à leur exprimer de l'amitié et à œuvrer à concrétiser les moyens qui mènent vers l'amitié. Car si l'amitié se concrétise, elle sera suivie de l'alliance et de l'assistance, ce qui amène l'homme à abandonner la foi et à se séparer des croyants pour devenir l'ami et l'allié des mécréants. Combien on voit cela maintenant en France et dans le monde occidental?
Les musulmans qui vivent au milieu des mécréants, qui leur témoignent tellement d'amitié et d'alliance qu'ils se sont mis dans leur camp contre les musulmans.
En outre, celui qui s'allie aux mécréants montre son manque d'intelligence. Comment en effet peut-il s'allier aux mécréants qui ne lui veulent que du mal et se mettre en porte-à-faux avec son Seigneur subhanahu wa ta'ala et son protecteur qui ne lui veut que le bien, qui lui ordonne au demeurant et qu'il incite à faire le bien? Par ailleurs, ceux qui incitent le croyant à ne pas s'allier aux mécréants est le fait qu'ils aient renié ce que les croyants ont reçu comme vérité. Or, il n'y a pas pire transgression et crime que celui-ci, car ils ont renié le principe de votre religion et ils ont prétendu que vous étiez égarés loin de la voie de la guidance. En vérité, ils ont renié la vérité qui ne souffre d'aucun doute ni d'aucune équivoque, alors que celui qui renie la vérité ne possède aucune preuve ou argument qui puisse étayer ses thèses. Bien plus, la simple connaissance de la vérité prouve la nullité des thèses de celui qui la renie et la rejette. Parmi leurs preuves de leur animosité est, comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, qu'ils ont expulsé le messager et vous-même de vos demeures. Ils vous ont chassé de vos patries. Or, vous n'avez commis aucun crime, si ce n'est d'avoir cru en Allah, votre Seigneur, que tous les êtres humains sont sommés d'adorer dans la mesure où c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui les a créés et qui leur a fait don de ses faveurs cachées et apparentes. Puisqu'ils ont refusé d'admettre cette réalité qui est l'obligation des obligations et que vous, vous l'avez acceptée, alors ils vous ont pris à partie. Ils vous ont pris comme ennemis. Ils ont commencé à s'en prendre à vous. Et ils vous ont chassé de vos demeures à cause de cela. Que reste-t-il comme religion, dignité et raison à l'homme lorsqu'il s'allie aux mécréants qui agissent ainsi, en tout temps et en tout lieu, et qui n'évitent de faire cela que lorsqu'ils craignent les croyants, ou lorsqu'ils en sont empêchés par une chose extérieure à leur volonté. Puis Allah tabaraka wa ta'ala rappelle dans les trois premiers versets, « Si vous êtes sortis réellement pour défendre ma cause et rechercher mon agrément, c'est-à-dire si votre sortie a pour but de lutter dans la voie d'Allah pour que sa parole soit prépondérante sur toute autre parole et pour rechercher sa satisfaction, sachez que l'une des implications de cette démarche est de faire alliance avec les croyants et se désavouer des mécréants. Telle est la lutte dans la voie d'Allah. Et c'est là le meilleur moyen avec lequel on peut se rapprocher de son Seigneur et obtenir sa satisfaction. Comment expliquez-vous les marques d'amitié que vous leur prodiguez secrètement? Je connais parfaitement les pensées que vous cachez et celles que vous divulguez. C'est-à-dire, comment pouvez-vous manifester de l'amitié pour les mécréants tout en la cachant alors que vous savez qu'Allah connaît tout ce que vous cachez et tout ce que vous divulguez? Bien plus, même si quelque chose est occulté aux yeux des croyants, elle ne peut être occultée à Allah, qui rétribuera les hommes d'après ce qu'il sait de leur part comme acte de bien ou de mal. Quiconque d'entre vous agit de la sorte, c'est-à-dire qu'il s'allie avec les mécréants, après qu'Allah vous ait mis en garde contre eux, se fourvoie loin du droit chemin, car il aura suivi une voie contraire à la loi, à la raison, à la dignité et à l'humanité. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala montra la rigueur de l'animosité des mécréants pour les croyants dans le but d'inciter ces derniers à faire de même en disant « Si jamais ils réussissent à vous avoir leur merci, c'est-à-dire quand ils ont l'occasion, quand ils sont plus forts, quand ils ont la capacité, ils ne ratent pas une occasion de nuire aux croyants. » Il ne manque pas de vous traiter en ennemi, en affichant au grand jour leur animosité envers le Coran, leur animosité envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur animosité envers l'islam, leur animosité envers les musulmans. Et il ne manque pas de se livrer sur vous à des voies de fait, que ce soit le meurtre dans certains lieux, dans certaines périodes, les persécutions, les châtiments, les sévices, et de vous accabler d'injures, c'est-à-dire de vous calomnier, de vous traiter de tous les noms, de paria, de vous mettre de côté et de vous insulter. Tout ceci dans leur vif désir de vous faire abjurer votre foi et que vous soyez mécréants comme eux. Car tel est le but qu'ils attendent de vous. Si vous objectez que vous ne vous alliez aux mécréants qu'à cause de la parenté et des biens, sachez que vos biens et vos enfants ne vous seront d'aucun secours auprès d'Allah, car il a une claire vision de toutes vos actions. C'est pour cela qu'il vous a mis en garde contre l'alliance avec les mécréants, une alliance qui vous est nuisible. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets, à partir du verset 4, « Vous avez un excellent exemple en Abraham, Ibrahim, et en ceux qui étaient avec lui, lorsqu'ils dirent à leur peuple, « Nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions l'inimitié et la haine demeureront manifestes entre nous jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Ceci est pour vous un excellent exemple. Exception faite de la parole d'Abraham, adressée à son père. J'implorerai le pardon d'Allah en ta faveur, bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah. Après avoir désavoué leur peuple, Ibrahim et les siens dirent, « Seigneur, c'est en toi seul que nous plaçons notre confiance, vers toi seul que nous revenons repentants, et vers toi seul que revient toute chose. Seigneur, ne fais pas de nous une source d'égarement pour les mécréants. Pardonne-nous, Seigneur, tu es le Tout-Puissant, le Sage. Vous avez en eux un excellent exemple pour celui qui espère en Allah et en la récompense du jour dernier. Quiconque se détourne de l'obéissance à Allah ne cause du tort qu'à lui-même. Car Allah est celui qui se dispense de tout, le digne de louange. » Donc là, nous avons lu du verset 4 au verset 6. Ou bien le sens des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala du verset 4 au verset 6. Dans ces versets, Allah ta'ala dit dans le sens « Ô croyants, un bel exemple, c'est-à-dire un modèle parfait et un guide vertueux que vous avez en Abraham et en ceux qui étaient avec lui parmi les croyants. Car il vous a été ordonné de suivre la ligne de conduite d'Abraham, le monothéiste pur. Quand ils dirent à leur peuple, « Nous vous désavouons, vous et les divinités que vous adorez en dehors d'Allah. » C'est-à-dire qu'Ibrahim alayhi salam et les croyants qui étaient avec lui désavouèrent leurs compatriotes associâtres et ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Ce verset est une preuve que le désaveu se fait de la personne même du mécréant et de sa mécréance, contrairement à ceux qui disent « J'aime le mécréant, mais je déteste sa mécréance. » Non. Nous vous désavouons, vous et les divinités. Donc, on se désavoue des gens du polythéisme et on se désavoue du polythéisme. Vous allez voir à la fin de la sourate, bien sûr, et de l'explication, les précisions et les exceptions. Donc, on voit que Ibrahim alayhi salam et les siens désavouèrent leurs compatriotes associâtres et ils désavouèrent ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Ensuite, ils leur proclamèrent ouvertement leur animosité en leur disant « Nous vous renions et désormais l'inimitié et la haine nous séparent. » C'est-à-dire l'inimitié avec les cœurs et la disparition de toute marque d'amitié et l'animosité avec les corps. En outre, cette inimitié et cette animosité ne sont pas limitées par le temps, mais resteront en vigueur jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. C'est-à-dire qu'une fois que vous vous mettrez à croire en Allah seul, cette inimitié et cette animosité se dissiperont et seront remplacées par l'amitié et l'alliance qui est due aux croyants. Vous avez un bel exemple aux croyants en Ibrahim, en Abraham, et ceux qui étaient avec lui dans la conformité à la foi et au monothéisme et l'accomplissement des actes qu'ils impliquent. En toute chose, ils adorent Allah seul. Puis Allah Ta'ala, quand il dit, à l'exception cependant de ce qu'Ibrahim avait concédé à son père, Azar, l'associâtre polythéiste, le mécréant, et l'entêté, lorsqu'Ibrahim l'eut appelé à la foi et au monothéisme et qu'il eut refusé, Ibrahim alayhi salam dit, j'implorerai le pardon d'Allah en ta faveur, bien que je ne puisse rien pour toi auprès du Seigneur. Ibrahim alayhi salat wa salam lui avait fait cette promesse d'implorer Allah en sa faveur. Mais quand, comme il est venu dans le Coran, dans d'autres versets, Ibrahim alayhi salam a vu que son père était un ennemi mécréant, il s'est désavoué de lui. Puis il est venu l'ordre explicite de l'interdiction d'invoquer pour les associâtres et les mécréants morts, qu'ils soient des proches ou non. Il est permis d'invoquer pour eux s'ils sont vivants, mais pas toute invocation. On ne peut pas invoquer pour eux la miséricorde. On ne peut pas invoquer pour eux la baraka. On invoque pour eux la guidée. On invoque pour eux les choses de bien de ce bas monde. Ou bien qu'Allah guide leur cœur à l'islam. À condition que ce mécréant pour qui on invoque n'est pas quelqu'un qui nous combat. Si c'est une personne qui ne nous combat pas, c'est un mécréant qui ne nous combat pas, il est permis d'invoquer en sa faveur. Qu'Allah lui augmente les choses de ce dunya. Par exemple, s'il a perdu un fils, on peut le visiter et lui dire qu'il te remplace par meilleur que lui. Ou ce type de choses. C'est-à-dire les relations de voisinage, les relations de parenté, comme on va le voir plus tard dans l'explication à la fin de la sourate, où Allah Ta'ala fait exception du cas des gens qui ne nous combattent pas et de la manière dont on doit se comporter avec eux. Donc, en résumé, souvent cette question revient. Est-ce qu'il est permis que j'invoque pour mes parents ? Est-ce qu'il est permis que je invoque pour eux quand ils sont malades ? Est-ce qu'il est permis que je les visite quand ils ont perdu un proche ? Etc. Tout ceci est permis à condition de respecter les règles religieuses, de ne pas dire des choses contradictoires à l'islam, c'est-à-dire d'invoquer la miséricorde ou le paradis ou autre pour le mort mécréant, ou bien de se retrouver dans des assises où il y a des choses illicites, où il y a des rites qui sont pratiqués, que ce soit du christianisme ou du judaïsme ou du polythéisme ou autre. Alors dans ce cas-là, on ne participe pas. Mais si c'est juste aller les visiter, les soutenir au moment des épreuves, alors ceci est une bonne chose. C'est un moyen de lier les liens de parenté et d'être une cause aussi, pourquoi pas, de les guider à l'islam, de leur montrer que le seul point qui nous met en désaccord, c'est la foi. Sinon, on n'a pas de problème avec vous, c'est-à-dire personnel. Ce n'est pas une haine personnelle que l'on a, mais c'est une inimitié religieuse. Même si ce sont nos proches, même si c'est les parents, même les enfants, même la femme, si elle devient mécréante, qu'Allah nous en préserve, ou le mari, alors, automatiquement, tout croyant dans son cœur, le désaveu et l'inimitié contre lui entrent dans son cœur et augmentent dans son cœur. C'est tout à fait normal. Ça fait partie de la foi. Donc Ibrahim alayhi salatu wassalam avait promis à son père d'invoquer pour lui, il l'a fait, mais quand il a découvert que c'était un ennemi d'Allah, tabarra'a minhu, il s'est désavoué de lui, totalement. D'ailleurs, le jour du jugement dernier, Allah Ta'ala va ressusciter le père d'Ibrahim comme une hyène, à l'image d'une hyène, puis il sera jeté dans le feu. Donc, quand Ibrahim a.s. a dit, mais j'implorerai le pardon d'Allah en ta faveur, bien que je ne puisse rien pour toi auprès du Seigneur, c'est par espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, on n'a pas à imiter Ibrahim a.s. dans cette circonstance où il invoqua de cette manière en faveur d'un associâtre, car on n'a pas à invoquer pour un associâtre mort, bien sûr, on parle de celui qui est mort, et celui qui est vivant, on a expliqué les règles. Les choses pour lesquelles on a le droit d'invoquer pour lui. Bien sûr, la guider. On peut demander la guider même pour le plus grand ennemi de l'islam. Ça, il n'y a pas de souci. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait demandé la guider à des gens qui le combattaient à son époque. Allah, tabaraka wa ta'ala, a cité dans le Coran, dans le sens de sa parole, quant à la demande de pardon que fit Ibrahim en faveur de son père, elle n'était que la conséquence d'une promesse antérieure qu'Allah lui avait faite. Mais lorsqu'il devint clair pour lui que son père était un ennemi d'Allah, il le désavoua. Certes, Ibrahim nous a invoqué fréquemment et il était longanime. Certes, vous avez un bel exemple en Ibrahim, Abraham, et ceux qui étaient avec lui lorsqu'ils invoquèrent Allah, qu'ils mirent leur confiance en lui et se tournèrent vers lui en reconnaissant leur impuissance et leur incapacité et en disant « Seigneur, c'est en toi que nous mettons notre confiance, c'est-à-dire que nous comptons sur toi pour obtenir ce qui nous est utile et repousser ce qui nous est nuisible. Et nous mettons notre confiance en toi, ô Seigneur, dans cette perspective. C'est vers toi que nous faisons retour, c'est-à-dire en retournant vers ton obéissance, la recherche de ton agrément et tout ce qui rapproche de toi. C'est vers ce but que nous œuvrons et que nous accomplissons de bonnes œuvres, tout en sachant que c'est vers toi que se fera en définitive notre retour, en nous y préparant en conséquence et en faisant tout ce qui nous rapproche de toi. Seigneur, ne fais pas de nous un sujet de tentation pour les mécréants, c'est-à-dire ne leur permets pas de nous dominer à cause de nos péchés, de nous tenter et de nous éprouver dans notre foi en nous empêchant de la vivre pleinement et en toute liberté. Car s'ils se voient plus nombreux et plus forts que nous, ils croiront qu'ils sont dans la voie de la vérité et que nous, nous sommes dans l'erreur, ce qui les incitera à plus de mécréance et à plus d'injustice. Pardonne-nous ce que nous avons commis comme péché et faute et ce que nous avons négligé comme obligation. Seigneur, tu es le puissant, celui qui contraint toutes choses, le sage, celui qui met chaque chose à sa place. Par ta puissance et ta sagesse, fais-nous triompher sur nos ennemis, pardonne-nous nos péchés et corrige nos fautes. Ensuite, Allah Ta'ala a réitéré l'incitation à les imiter en disant, vous avez en ces gens-là, c'est-à-dire en Ibrahim, Abraham, et ses compagnons, un bel exemple. Certes, cette imitation n'est pas à la portée de tout à chacun, mais elle est possible pour celui qui espère en Allah et au jour dernier. En effet, la foi et l'espoir de la récompense et de la rétribution d'Allah facilitent à l'homme tout ce qui est difficile, diminue à ses yeux tout ce qui est excessif et l'incite à faire plus d'efforts dans l'imitation des serviteurs vertueux d'Allah et des prophètes et des messagers, car il se verra dans l'obligation et le besoin de faire cela. Quant à celui qui se détourne de la voie d'Allah, c'est-à-dire de son obéissance et de l'imitation des messagers d'Allah, il ne portera préjudice qu'à lui-même et ne nuira en rien à Allah. Qu'il sache qu'Allah se suffit à lui-même, c'est-à-dire qu'il possède la richesse absolue, à tout point de vue, et n'a besoin de personne parmi ses créatures, et qu'il est, subhanahu wa ta'ala, le digne de louange. Dans son essence, dans ses noms, dans ses attributs et ses actes, il est loué pour tout cela, subhanahu wa ta'ala. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم